Radio FR.
La cafette.
La cafette.
Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on vous présente une création radiophonique de la compagnie High Noon qui sera diffusée ce jeudi 1er juillet à 20h sur Radio Fribourg. La petite Soulonne, c'est son titre. C'est à l'origine un monologue de la comédienne Sonia Menou que j'ai le plaisir d'accueillir ce matin. Bonjour Sonia.
Bonjour Amaëlle.
Bienvenue.
Merci.
Alors, c'est vrai que vous êtes comédienne, mais aussi auteur, metteur en scène. On va pouvoir parler un peu de tout ça. À vos côtés, Michel-Stéphane Dupertuis. Bonjour.
Bonjour.
Michel, co-réalisateur sur cette aventure. Vous êtes également auteur de théâtre. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir André Rossier, qui est le créateur sonore de cette pièce, responsable de production à Mediapub, musicien aussi, compositeur. Bonjour André.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Un sacré projet, Sonia, cette adaptation radiophonique. C'est quoi, des mois de travail ?
C'est des mois de travail, effectivement. Là, je pense qu'on a commencé environ au mois de janvier. Donc, effectivement, c'est 6 mois de production radiophonique pour arriver au résultat qu'on écoutera jeudi.
Un projet auquel on pense le jour et la nuit, le samedi et le dimanche ?
Alors oui, effectivement, comme tout projet qui peut prendre la tête... Puis le temps, c'est vrai que c'est toujours intense. Après, c'est différent de l'expérience théâtrale, puisqu'on a plus eu le temps de finalement diluer sur plusieurs semaines, ce qui était aussi très agréable dans le processus de création.
On va évidemment parler de tout ce processus de création. Pour l'instant, peut-être, j'aimerais bien, Sonia, qu'on commence par parler un peu de cette version scénique de ce texte qui nous fait voyager de l'Arizona à la campagne fribourgeoise. Je profite de glisser un petit peu de la musique originale signée Jérôme Humbert, qu'on va entendre dans cette création, puisque voilà... Tout de suite, ça sent un peu le cow-boy.
Absolument.
C'est ça l'idée. Alors, c'est quoi la petite Soulonne en scène ?
La petite Soulonne en scène, c'était ce que j'avais appelé un road play. Donc, ça reprend l'idée du voyage en voiture qui va effectivement défiler au travers de paysages géographiques, mais aussi de paysages intérieurs. Mm-hmm. Et puis, il y a des portraits comme ça parsemés dans la pièce. Donc, effectivement, on commence dans un bar ringard, quelque part dans le coin, on va dire. Mm-hmm. Il y a encore prescription. Et puis après, on va voyager dans l'ouest des États-Unis, Tucson, avec un road trip, et puis pour revenir à l'enfance gruyérienne, la campagne, les tracteurs, etc. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un voyage sur scène. Mm-hmm. Donc voilà, on l'a joué en 2017 au Bilboquet, puis à la Tour Vagabonde.
Oui. Il a été peu joué, hein.
Alors il a été peu joué, effectivement, parce que c'était vraiment un projet qui avait été fait très rapidement. La pièce s'était écrite, enfin j'avais écrit ce texte en 2-3 jours. Mm-hmm. Je l'ai fait écouter à une metteur en scène, et puis de là a germé l'idée du projet. Donc je crois qu'il y a eu 6 semaines entre le moment de la rencontre avec la metteur en scène et le moment où j'étais sur scène. Donc c'était très rapide, c'était fulgurant. Donc effectivement, voilà, c'était, je pense bien, de le reprendre sous une nouvelle forme qui est un peu plus pérenne aussi.
Mm-hmm. Alors il y a ce côté road trip, et puis on parle aussi de voyage initiatique. Il y a quelque chose de très intérieur aussi.
Absolument. C'est vraiment le déploiement de la conscience. Comme je dis, c'est aussi bien une reconnaissance des origines et une émancipation des origines. Donc, en fait, le personnage, maintenant je l'appelle le personnage, même si c'est inspiré de ma vie, va vraiment pouvoir s'émanciper par l'étude aussi des poètes, par le voyage, mais aussi par la reconnaissance de ses origines qui sont importantes et finalement avec lesquelles elle fait plus ou moins la paix à la fin, avec une forme d'humour et puis de tendresse.
Alors, à quel point c'est votre histoire, Sonia, finalement,
alors,
cette petite Soulonne ?
C'est une très bonne question. Moi, je pense que toute œuvre est autobiographique, mais à des degrés différents, c'est-à-dire il y a des masques différents. Et c'est vrai que j'ai une écriture assez frontale, assez sincère, donc pour tous ceux qui me connaissent, on sait évidemment que c'est inspiré de ma vie. Mais ce que j'ai trouvé intéressant quand je l'avais joué en 2017, c'est qu'il y avait une Parisienne qui m'avait dit « Tiens, ça passerait à Paris, ça ?» J'ai dit « Tu crois ?» Parce qu'on ne sait jamais effectivement si c'est vraiment planté dans le local et ça ne va pas voyager plus loin. Et c'est ce qu'on a voulu faire en fait, on a voulu universaliser le récit. Donc déjà à l'époque, Michel m'avait aidé pour ce travail, qui était finalement de donner l'essentiel pour que tout un chacun puisse retrouver quelque chose en fait, de sa propre vie. C'est ça le but, je crois. Quand on crée, on veut faire voyager, on veut donner de l'émotion.
Donc ce voyage, vous l'avez vraiment fait aux États-Unis ?
Alors oui, tout à fait. Donc, c'était un semestre universitaire que j'ai fait en Arizona, et puis pour lequel j'avais travaillé effectivement 6 mois dans ce bar que je mentionne.
Ouais.
Et puis bon, c'était fabuleux, parce que c'était l'Amérique dans toute sa puissance, c'est-à-dire les pom-pom girls, les les boys qui servent des cafés à l'extérieur de l'université. L'université, c'est une ville en soi. Hein. Ouais. Il y a 45, 50 000 étudiants, c'est énorme. Et donc, après, effectivement, j'ai fait ce voyage road trip dans les parcs naturels de mm-hmm. l'ouest des États-Unis, dont je m'inspire aussi dans la partie Tucson de la pièce.
Mais ça a l'air d'être une partie très importante de votre vie pour qu'il en ressorte carrément un monologue.
Absolument. Je pense que c'est vraiment lié à l'étude des poètes à l'université. Donc, notamment, cette pièce, je l'avais dédiée à Robert Reder, qui était mon prof à l'université de l'Iowa, je crois qu'il venait. Puis il était poète aussi. Pour moi, c'était une révélation parce que ce que j'ai appris de la poésie américaine, c'est que tout est bon à prendre pour la poésie. Mm-hmm. Ils adorent célébrer l'ordinaire. Ils ne vont pas forcément se cacher dans 10 000 métaphores. Et j'aimais bien cet aspect assez direct, en fait.
Frontal, encore une fois, quand même.
Effectivement. Et donc, pour moi, ouais, ça a été une manière de m'émanciper et puis de trouver d'autres formes. Il y a aussi l'anglais, une langue que j'aime, mm-hmm. qui donne toujours la possibilité de voyager, en fait, de sortir un petit peu de son terroir à soi.
Et puis, comme on l'a dit, à la fin de la pièce, il y a ce retour en terre fribourgeoise. Et là, je propose un tout petit extrait. Je ne sais pas, Sonia, si vous voulez le commenter, mais on va se retrouver dans le foin de la grange.
Oui, on va se retrouver dans le foin de la grange, mais je pense que c'est bien laisser la surprise.
C'est parti.
14 ans, première cuite, au whisky, au Big Ben.
Le bar des paysans.
Qui deviendra une banque.
La banque des paysans. Vrai pub anglais, avec moquette et fauteuil de cuir dans les angles. Beau bar en bois. Mario, le patron, retourne chez lui au Portugal. Il organise une fête avec tournée générale. Cuite phénoménale.
Je rentre complètement bourré.
La porte de la maison est fermée. La clé n'est pas sous le paillasson.
4 heures du matin, j'ai pas le courage d'affronter la gueule paternelle. Je vais dans la grange, dormir dans le foin. Merde, la lumière.
Ma fille, c'est pas possible!
Il l'expédie à l'intérieur. Il l'a prise pour Capuche, le trimardeur qui vient squatter la grange une fois par semaine. Chapeau noir, grande cape noire, on dirait la faucheuse lorsqu'il s'approche de la maison. Il parle de bataille, de la grande guerre.
J'y comprends rien. Il me fout la frousse. Ma mère lui sert la goutte et 2 ou 3 œufs au plat. Il dort dans la grange avec l'interdiction de s'en griller une. Capuche, couché près du lit de la rivière.
Capuche. Sonia,
comme l'herbe a si peu à faire.
Oh, c'était pas fini,
je voudrais
extrait.
Être. C'est pas grave.
Ah, oh, j'étais reparti dans le bruit le bruit de l'eau, ouais, absolument. Mais on a manqué du coup ce petit vers signé Emily Dinkinson.
Exactement.
Parce qu'il faut dire en fait que y a de la poésie dans ce spectacle et puis que cette auteure américaine là vous a touché.
Oui, exactement. Donc ça se terminait par comme l'herbe a peu de choses à faire, je voudrais être foin. Et ça c'est effectivement un petit vers d'Emily Dickinson. On prend 3 autres poèmes dans la pièce ou 4 mm-hmm. autres, je crois. Et l'idée en fait, c'était vraiment d'imbriquer ces poèmes dans le récit, donc pas qu'on voit OK, là c'est le récit, oui. Là c'est le poème. Alors forcément, on reconnaît quand même une syntaxe particulière à la poésie, mais on a vraiment essayé de glisser ces poèmes pour qu'ils soient vraiment partie intégrante du corps du texte. C'était ça l'idée. Puis Emily Dickinson, oui, c'est une grande figure de la poésie américaine, un peu ignorée de son siècle, en tout cas en ce qui concerne les éditions. Hein, elle a été très peu publiée, mais elle a écrit 1800 poèmes. Et puis, elle vivait donc assez aisément, si bien qu'elle pouvait s'occuper de son herbier, de ses tâches domestiques, elle adorait faire du pain, et puis des poèmes. Mais effectivement, il y avait quand même cette petite douleur de ne pas avoir été reconnue de son vivant. Après, elle l'a transformé en d'autres poèmes. Voilà.
Pourquoi c'était important pour vous, les poèmes de cette auteure ?
Mais je pense que je me suis retrouvée en elle parce que justement, elle parle beaucoup du déploiement de la conscience, de la lucidité, de l'affranchissement du passé. Elle est née dans un contexte américain puritain, même si sa famille était libérale. Mais disons, le contexte où elle vivait était très puritain. Et là aussi, on voit qu'elle s'est émancipée et puis éloignée de certaines croyances.
Mm-hmm.
Et
donc, c'était il y a 200 ans. Hein.
C'était il y a 200 ans, effectivement. Donc elle était pionnière aussi dans sa manière d'aborder ce qui se passait autour d'elle.
Ouais. J'aimerais encore juste poser une question par rapport à Michel, Stéphane qui est avec nous aussi. Comment vous fonctionnez tous les deux pour travailler ensemble ? Est-ce que Sonia, c'est un petit peu la folie et Michel, c'est un peu l'ange gardien ou celui qui met un peu les garde-fous ?
Oh, on est très complémentaires en mm-hmm. fait. Non, ça, même la folie vacille entre les deux. Des fois, c'est d'accord. Moi, des fois, c'est elle. Non, on est complètement complémentaires. On écoute, on propose des choses. On propose des choses. Ensuite, on se concerte. Est-ce que ça, c'est bien ? Est-ce que tu as une idée ? Je me souviens d'ailleurs d'une fois, on avait une transition à trouver pour une scène entre le bar et Tucson. Mm-hmm. Et dans cette scène-là, on n'arrivait pas à trouver le bruit de transition. C'est une scène assez forte. Et on a cherché avec André, avec Sonia, assez longtemps, jusqu'au moment où je vois Sonia remuer du café dans sa tasse avec la cuillère. Et je dis, ah, ce son-là, ce son, ça c'est bien. Et on a proposé le son à André et il nous a fait quelque chose de magnifique. On n'espérait pas que ce soit aussi bien, mais superbe.
Ça peut être aussi simple que ça. On cherche midi à 14h et c'est le bruit de la tasse de café.
Ah, on avait cherché loin, on avait cherché des Larsen.
Bref, vous travaillez bien ensemble.
On travaille bien ensemble, mais c'est vrai que Michel a cette rigueur, il a cette patience aussi, et puis cette distance nécessaire à l'écoute, qui est moins impliquée émotionnellement. Et je pense que c'était nécessaire effectivement de l'avoir un peu comme ange gardien, comme tu dis, Amaël.
Alors, on va passer de cette pièce qui a été jouée sur scène à la pièce radiophonique. Déjà, est-ce qu'on peut parler de projet de transformation comme encouragé par le service culturel?
Alors, bien sûr, ça a été un tremplin, ça. Oui. Pour nous, c'était nécessaire parce qu'en tant que compagnie émergente, effectivement, et puis l'embouteillage qu'on connaît bien dans les théâtres, c'était une optique qui nous paraissait quasiment logique de se dire où est-ce qu'on peut aller chercher du public. Après, il y a aussi mon goût pour la tradition des pièces radiophoniques. Moi, je trouve fabuleux et j'adore personnellement voyager avec le son, les mots, pas avoir la position du visuel. Mmh. Et j'ai aussi beaucoup d'amis d'un certain âge qui écoutent beaucoup la radio. Et oui. Je me suis dit, c'est aussi intéressant d'aller chercher ce public discret qui va peut-être pas forcément au théâtre, mais qui aime rester chez soi et puis écouter des choses. Donc, mais effectivement, le contexte Covid a quand même fait que c'était le bon moment, je pense, pour faire cette pièce radiophonique.
Il y avait ce petit truc quand même de radio qui te parlait déjà.
Absolument, j'ai toujours aimé la radio, j'ai toujours aimé les voix.
Ouais. Voilà. Et les pièces radiophoniques.
Voyager, les documentaires même. Ouais. Et puis ce qui est génial, c'est qu'on peut écouter de chez soi. Maintenant, avec la diffusion en ligne, on peut aussi arrêter, aller se faire un thé, revenir. Je trouve que ce sont des moments intimistes, mais finalement, on a quand même l'impression d'être en communion avec le monde. Donc j'adore ce médium.
Ouais. Je vais juste demander à André aussi si c'était une expérience assez originale. Le théâtre à la radio, c'est quelque chose que tu avais déjà fait, André ?
Pas comme ça, non. Mais finalement, comme je n'ai pas vu la pièce sur scène, finalement, j'ai très vite remarqué que ce n'est pas forcément un désavantage, parce qu'il y a tellement d'autres aspects qui sont importants dans une pièce radiophonique où on n'a que l'audition et puis pas le visuel, que ça me permettait à donner des inputs autres que Sonia avait sur la pièce, et puis elle qui était rattachée à la pièce, complètement différent. Et puis avec deux autres oreilles extérieures en plus, ça donnait quand même une belle évolution de ce travail à trois.
Alors ici à Mediapub, c'est vrai que tu enregistres beaucoup de publicité. J'ai dit que tu es musicien, j'imagine aussi bien en studio que tu enregistres et tu mixes de la musique. Un projet comme celui-ci, c'est différent de tout ce que tu as fait ?
Oui et non. Je veux dire, j'en ai déjà fait des projets audio autres que publicité ou musique, absolument. Là, c'était différent parce que il y avait vraiment un travail à trois à faire. Et puis, un travail à trois où tous les trois avaient des opinions, des avis à donner. Et puis, ça fonctionnait très bien. Je veux dire, ce que Michel a dit avant, que lui, il était complémentaire avec Sonia, je trouve qu'on était les trois très complémentaires. Donc, ça a très bien fonctionné aussi à ce point-là.
Donc, ce n'était pas juste votre esclave
Ah non.
Absolument pas.
Du son.
Non, non. Hein, il ne se serait pas laissé faire, à mon avis.
Non, mais on révolté avant.
On entend vraiment qu'il y a une complicité et qu'il y a eu ce projet, effectivement, à trois. Alors, puisqu'on a des extraits sonores, on en profite aussi. Tout à l'heure, on va développer un petit peu la manière dont vous avez créé cette pièce pour la radio. Mais pour l'instant, Sonia, on écoute les Deseric Sisters.
Yes.
Ricky, darling, of the love I have cherished so long. If you will but meet me this evening, when you hear the first whippoorwill song. Whippoorwill, when you hear the first whippoorwill song. Oh, meet me tonight, sweetheart, meet me, when you hear the first whippoorwill song.
Je savais pas que les souris faisaient des yodels. C'est complètement fou, Sonia. C'est quoi ce groupe?
C'est des poules dans la pièce.
C'est des poules, ok. Poules, souris, ça peut marcher.
Ce groupe, elle s'appelle les deux Zurich Sisters.
Elles viennent de Zurich?
Non, elles ne viennent pas de Zurich. J'ai trouvé très peu de choses sur elles. Il n'y a même plus, je crois, d'ayant-droit. On ne sait pas vraiment. Mais je les ai retrouvées, voilà, tout simplement sur YouTube. Certainement en écoutant une autre forme de yodel. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'elles sont. Il y a une dextérité dans leur yodel qui est assez.
C'est juste incroyable. Alors, on va parler maintenant, effectivement, de cette création de la petite Soulonne qui passe de la scène à la radio. Comme vous le disiez tout à l'heure, hein, il faut vraiment oublier la scène, transposer le tout dans sa tête, dans une version radiophonique. Ça ne doit pas être facile.
C'est pas facile, mais on opère par couches.
Oui.
Et je pense que ça a aidé. Donc la première chose, c'était l'adaptation à deux voix, justement, de passer du jeu, purement jeu, au narrateur, oui. Il, avec la voix de Cédric Nussbaumer, qui joue le narrateur.
Absolument.
Et puis l'héroïne qui parle en jeu. Donc déjà là, on a une autre forme de récit qui. Voilà. Qui
on réécrit. On réécrit carrément.
Part, c'est une réécriture, oui. Exactement. Et puis après, on a enregistré les voix, des fois ensemble, des fois séparément. Et puis alors là, c'était avec André et Michel des heures d'écoute de ce qui est le meilleur. Et puis André, voilà, étant musicien aussi, c'est vrai qu'il a une oreille très fine, notamment aussi sur les termes anglophones, hein, qu'on utilisait dans la pièce. Donc voilà, il pouvait nous coacher aussi un petit peu dans ce travail d'enregistrement. Et puis après, là, on appose le design sonore. Oui. Et puis c'est vraiment, voilà, on creuse petit à petit, on crée ça comme un bijou, quoi. C'est vraiment méticuleux comme technique.
Est-ce que vous avez perdu du texte? Vous avez dû couper quand même, faire des choix?
Non, on n'a pas vraiment perdu de texte. Okay. Après, il y avait deux, trois petites phrases comme ça, d'un coup, qui se perdent. On se dit, non, ça ne fonctionne pas, ou des tout petits changements. Mais le corpus du texte a plus ou moins resté le même.
Mm-hmm. Ouais. Alors, bon, réécrire, trouver un narrateur, prendre aussi position pour toi, Sonia, dans quelque chose qui ressemble un petit peu à un nouveau rôle, quand même.
Oui, alors, effectivement, mais comme je dis, je me sens... ce personnage, je le vois vraiment comme un personnage maintenant. Ouais. Je ne le vois plus comme un jeu qui a défini peut-être certains événements du passé. Donc, c'est vraiment devenu un personnage que je peux moi aussi observer un petit peu de loin comme ça et puis qui m'amuse. Parce que bon, je décris des événements qui sont passés il y a peut-être aussi une quinzaine, vingtaine d'années. Donc, mm-hmm. Voilà, cette distance permet aussi d'avoir pour soi une nouvelle vision de la pièce.
Donc, effectivement, on se retrouve avec un canevas qui fonctionne et après, il s'agit d'habiller tout ça. Et là, c'était vraiment ce travail à trois. Avec, racontez-nous un petit peu, donc des bruits, des musiques, des extraits, des ambiances.
Beaucoup de recherches de musique d'abord, pour arriver à trouver les bonnes ambiances, et du minutage, en réécoutant pour minuter. Alors ce mot-là, il doit arriver là, telle seconde, André, et quelques frames. Non, c'était vraiment un énorme travail entre nous trois, justement, de minuter, un chouïa plus de pause, André, juste là.
Synchroniser aussi.
Synchroniser tout.
La musique, effectivement. Ouais.
La recherche de son. Ça, André surtout a fait beaucoup de recherches de son. Je me souviens d'une musique qu'on cherchait. Et puis, il me dit, ah, j'en ai trouvé une. Et je vois tout à coup sur son écran qu'il y a 10 pistes. D'accord, il y avait une musique, mais il a tout recomposé. Enfin, mis énormément de bruitage, d'effets, etc. C'est un travail de compositeur.
Oui, oui. Et là, le compositeur, c'est génial, ouais, de l'avoir... André, oui.
Ben la recherche de l'ambiance sonore, c'est quelque chose qui semble d'être facile, mais ça prend énormément de temps parce que un bruitage qu'on avec lequel on est entouré dans la vraie vie, il est juste là.
Ouais.
Et puis on n'aperçoit pas vraiment. Et puis c'est quelque chose que souvent les gens comprennent pas. Un bon bruitage, c'est un bruitage qu'on remarque pas forcément.
Exact.
C'est juste naturel.
Ouais.
Et puis ça a beaucoup à voir avec les différents niveaux de volume, le positionnement aussi dans le panorama, le volume évidemment, mais c'est il y a tout petit aspect à faire attention que ça perturbe pas, au contraire que ça t'embellit. Et puis c'est du travail que j'adore à faire,
mais
ça prend beaucoup beaucoup de temps. Et puis mais c'est aussi la partie la plus chouette, je trouve, de tout à coup une phrase sonne tout différente.
Ouais. Mais toi, ça a dû te prendre aussi un temps fou à affiner ton oreille jusqu'à pouvoir dire waouh, là c'est bon, là c'est naturel, là c'est pas trop, etc.
Après, voilà, ça, c'est des années d'expérience, d'un côté, et puis c'est aussi une sorte de prendre du recul à chaque fois.
Mm-hmm.
Et puis c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est aussi pour ça que c'est important. Un travail comme ça ne peut pas se faire en une semaine. Mm-hmm. Il faut toujours réécouter, retravailler les choses, mais voilà, c'est un travail qu'il faut faire, et puis il faut écouter, mon instrument principal, mon outil principal, ça c'est...
C'est les oreilles.
Mes choux-fleurs.
Non, que tu as jolies, j'allais dire. Est-ce que c'est important aussi, les pauses, parce que tout à coup on en a plein les oreilles, justement, plein la tête, puis on sait plus ce qu'on entend?
Oui.
Ouais. Oui.
C'est très important. Et puis là, franchement, je dois dire que j'étais souvent... très heureux d'avoir les deux,
oui,
qui me disaient, non, là, il faut encore plus. Parce que si tu es en train de produire, souvent, tu produis, tu es toujours sur des petits extraits. Donc, t'as pas toujours la vue globale.
Oui.
Et puis, des fois, t'as l'impression, ben là, il faut que ça continue. Mmh. Mais en fait, non.
Non.
Il faut attendre, il faut laisser le temps à l'auditeur, parce que l'auditeur, il entend ça la première fois.
Oui.
Pour la première fois. Et puis, c'est toute une chose, ça a aussi à voir avec le recul qu'il faut avoir.
Ouais.
Donc, d'avoir plus d'oreilles externes, extérieures, c'est important.
Ça, c'est un petit peu comme dans un spectacle, hein, où peut-être on retravaille, on reprend, et puis on oublie que le spectateur va juste le prendre, hop, au passage, comme ça. Hein.
C'est vrai que c'était un questionnement, le rythme global de la pièce.
Mmh.
Alors oui, on peut faire des pauses plus longues, mais après, on voulait quand même pas desserrer non plus trop, parce que l'idée, c'est que ça reste finalement un bloc, et puis cette intensité, elle fait partie de la petite Soulonne. C'est une traversée.
Oui.
La petite Soulonne, elle passe, des fois elle s'arrête plus longtemps pour regarder et elle continue.
Oui.
Donc la pièce veut ça aussi. On n'est pas dans quelque chose qui va lentement, qui c'est paf, direct. Oui. Donc effectivement, on le sent dans le rythme général et puis effectivement, c'est tout à coup, il faut peut-être un petit moment de calme, un bruit de rivière ou autre chose qui permet de tasser tout ça.
Je demande aux spécialistes, où est-ce qu'on va chercher les bruits? Est-ce que tu as des habitudes en particulier, André?
Alors, ça, c'est toute une histoire. Mais je vais faire court. parce que finalement, c'est vite dit. Le problème avec les bruitages, c'est qu'il y a 10 000 banques sonores, mm-hmm, avec des millions de bruitages. Mais avec les bruitages, c'est toujours la même chose. Si il te faut un bruitage particulier, tu ne trouves pas. Alors, il faut faire.
Ouais.
Ce bruit de...
De tasse de café.
De tasse de café. Finalement... On l'a fait au studio, même des changements d'un journal. Je veux dire, tu trouves, mais tu trouves pas comme ça doit être dans
la
pièce.
C'est parfois assez grossier, je trouve, dans les banques de bruitage.
Après, une chose, je veux dire, on a utilisé plein de bruitages aussi de ces banques sonores, mais tu peux jamais les prendre comme ça. C'est toujours une histoire de volume, de panorama, de les faire venir, de les mettre où tu les veux. Donc c'est très chouette à faire, mais c'est très intense au niveau de temps.
Vous avez peut-être encore un exemple d'un bruitage qui vous a demandé beaucoup de recherche.
Transition vers Tucson. On voulait créer l'ambiance, justement, l'ambiance du désert de Sonora, parce que Tucson, c'est dans cette... Et là aussi, on a construit des couches. Enfin, Michel, peut-être tu peux...
Oh, le gros insecte, il nous a posé des problèmes. Parce qu'on avait un son qui était... On voulait un son qui faisait penser à de la chaleur et du sec. Or, on avait un magnifique son d'insecte sur un son de rainforest, donc c'était
tropical.
Andrea, on a recherché un autre insecte. il fallait trouver. Oh oui, bien sûr, il y avait le faucon. Je vous en parle. Mais Nul n'imagine le travail que ça a été, et on ne demande pas aux auditeurs d'imaginer ce que c'est, juste qu'ils aient du plaisir.
Oui, c'est ça. C'est Mais ça, c'est chouette exactement. D'avoir un petit peu les coulisses quand même, puis qu'on se rende compte que c'est pas juste pif, paf, pouf, trois sons, trois touches.
C'est pas une captation sonore. Hein. On n'est pas dans on fait la pièce d'un bout à l'autre et on l'enregistre. On est vraiment effectivement dans un montage total. Voilà.
Un travail d'orfèvre.
Ouais, ouais, vraiment.
C'est ça. On parle un peu de la voix, Sonia, parce que c'est pas la même chose de déclamer un texte sur scène et puis de s'enregistrer et de s'entendre.
Pas du tout. Et donc, André a eu un petit peu de travail à effacer les bruits de bouche.
Oui.
Comme ça, là. Je l'ai fait pour les auditeurs et auditrices.
Que milliers, mais...
et puis, oui, effectivement, c'est difficile de s'écouter soi-même. Et c'est un travail qu'on est obligé de faire, parce qu'on est obligé d'écouter les rushs. Et puis, c'est vrai qu'au début, je le disais de manière assez polie, du début à la fin. Et on s'est rendu compte que non, c'est quand même une déclaration d'indépendance à la fin. Il y a un poème avec Emily Dickinson où elle dit, voilà, elle envoie un petit peu tout balader. Mm-hmm. Il faut quand même une voix un peu affirmée. Donc, j'ai dû accepter de prendre quelque part ma voix, ma voix plus basse, sans l'édulcorer. Et donc là aussi, c'était effectivement un cheminement. Mais j'ai aussi beaucoup aimé travailler avec les autres voix, justement. Donc on entend celle de ma famille. Par exemple, il y a la voix de mon père, de ma mère et d'une amie, Verena, qui joue ma grand-mère.
Oui.
Et voilà, je pense que dans l'enfance, ça amène aussi un rythme bienvenu, un changement auquel on... Voilà. Mm-hmm. Je ne devais pas dévoiler la surprise. Mais disons que voilà, ce travail de voix, pour moi, c'était pas facile.
Ouais.
C'est une mise à nu. Mais différente de la scène. Et on est stressé quand on est devant le micro, et on doit le dire, j'ai la même appréhension et crainte que quand je me retrouve devant un public.
Ouais, c'est presque même pire, puisqu'on a André en face avec son casque, qui écoute,
qui regarde.
Dit... avec un peu d'aide et de soutien et de coaching de Michel ?
Absolument. La dernière prise, d'ailleurs, Michel, le chef d'orchestre.
Je faisais des gestes dans le fond, je ne sais pas si André m'a vu, mais s'il m'a vu, il devait s'écrouler de rire.
Mais toi, Michel, qui connais bien Sonia, qui travaille beaucoup avec Sonia, t'as vraiment senti que tu pouvais la guider vers ce qu'elle devait apporter.
Oui, mais un peu plus comme chef d'orchestre qui rappelle à l'orchestre ce qu'il doit faire. Le musicien, il sait jouer. Mm-hmm. Hein, mais c'est ça, moi je lui rappelais où est-ce qu'on avait prévu de mettre les intonations, etc. Mm-hmm. C'était... Voilà, je ne dirigeais pas, en fait.
Puis il y a une forme de timidité, de pudeur, des fois. Donc, effectivement, Michel m'encourageait à dire « Bah, vas-y, là !» Quand on fait un peu le coup de gueule sur la Suisse, par exemple, on le découvrira, il faut y aller.
Ouais.
C'est ça, pas quelque chose pas qui dire.
Se dit...
Ça fallait pas le dire.
Mais on comprend pas forcément à quoi tu fais allusion. Hein. Moi, j'ai aucune idée. Hein. Je vous laisse dire. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'on a révélé des grands secrets. Quand on est trois à travailler sur une pièce radiophonique, qui c'est qui décide ? Quand c'est fini ?
Là, à nouveau, ça s'est fait assez naturellement.
Oui, j'ai l'impression. On était d'accord.
Tout le monde était d'accord. C'est ça, comme disait André, c'est un consensus perpétuel, mais jusqu'à ce que chacun soit content. Parce que je pense que si André n'avait pas été content avec un son, il aurait continué jusqu'à ce qu'il soit content. Moi, je regardais effectivement la préservation du texte, du rythme, ce rythme intérieur qu'on a quand on écrit quelque chose, qui est assez têtu, hein, qui reste, et on aimerait comme ça. Donc, une fois que cette partie-là, pour moi, était faite, voilà, c'est OK. Et puis pour Michel,
Quand je me suis dit, c'est beau, bravo.
C'est pas quand tu t'es dit, je les supporte plus, j'en peux plus.
C'est... Non, c'est quand j'ai eu fini de vider mon paquet de mouchoirs et de me rouler par terre de rire en même temps.
OK. Pas mal, pas mal. Émotion et rire. On a encore un extrait. Sonia, cette fois-ci, par contre, on part vraiment sur la route.
C'est ça.
Entre...
On part donc dans les parcs nationaux de l'ouest des États-Unis pour un road trip.
On se retrouve dans une minute.
Je revois les collines alentour, la terre sèche, les cactus candélabres, encore et toujours. Et ce fabuleux road trip avec Kjetil, le Norvégien, et Jörg, l'Allemand, à travers l'Utah, l'Arizona et la Californie. Jörg conduit, Kjetil regarde la carte et moi, j'en fous pas une. On fume dans la voiture.
Bryce Canyon et ses sommets déchiquetés. Monument Valley, vu de loin, et son doigt d'honneur. Grand Canyon, vu du bord.
Et les merdes vertes des mulets sur les chemins des touristes flemmards.
Et ce parc, dont elle a oublié le nom,
que nous traversons sur une musique aérienne au coucher du soleil. Couleur ocre flamboyante, flamme minéralisée.
Petrified Forest. Rouge, orange, brun, noir.
Je n'avais jamais vu ça. L'antique voyage du bois à la pierre.
trouve ça formidable, le narrateur qui amène un contexte et Sonia qui complète parce qu'elle est la voyageuse.
Exactement. C'est vraiment, La Petite Solène, c'est un souvenir réécrit au présent. Mm-hmm. Et ça date effectivement de la mise en scène. Au départ, je l'avais écrit au passé. Puis effectivement, la metteur en scène à l'époque m'avait dit, mais écris-le au présent mm-hmm. pour la scène. Et donc là, le narrateur, il plante le décor. Et puis on a effectivement des fois des réactions immédiates mm-hmm. de cette héroïne devant cette beauté fascinante des parcs de l'Ouest américain, il faut le dire.
C'est très beau.
Ouais, c'est cosmique.
Sonia, j'ai encore une question mm-hmm. par rapport à la scène et la radio. Finalement, tout ce travail de ces derniers mois pour créer, c'est un peu comme les répétitions d'un spectacle. Après les répétitions, on est heureux de monter sur scène. Et ici, après les répétitions, eh bien, le bébé part tout seul.
Exactement, oui, oui. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu étrange, mais on a quand même prévu une petite verrée avec celle qui fait la voix de ma grand-mère. Justement, on va écouter ça ensemble. Jeudi soir, il faut quand même que ce soit festif, avec une bonne bouteille de rouge. Oui. Ça s'appelle La Petite Solène, tout de même. Oui. Et puis le but, voilà, c'est que les auditeurs se laissent bercer dans ces atmosphères différentes. Et puis aussi, à la fin, voilà, dans cette belle campagne, moi, j'ai beaucoup d'affection pour le monde paysan, vu que je viens de ce monde-là. Et puis c'est aussi un hommage à ce monde rural, à ce monde de débrouillardise et puis à ce monde qui est finalement très proche de la terre, donc mm-hmm. assez, qu'on pourrait croire assez éloigné des études et de la poésie, mais moi je trouve que la poésie est partout. Donc c'est aussi un petit peu un des buts de La Petite Solène, c'est de mêler les mondes mm-hmm. poésie, état de fumier, paysan, académicien, ville, campagne, les frontières, il n'y en a pas finalement, on s'en fout je crois.
Ouais. Francophone, suisse-allemand.
Suisse-allemand qui parle beaucoup mieux le français que nous ne parlons.
Et l'anglais.
Oui, on dirait qu'il est très polyglotte.
Ouais, ouais.
Exactement. Alors, comme quand on a une pièce de théâtre et qu'on aimerait qu'elle tourne, évidemment, cette pièce radiophonique, j'imagine que vous aimeriez qu'elle vive aussi.
Ah oui, on va la faire voyager sur les ondes, c'est ouais. clair. Alors on peut déjà annoncer que le 5 septembre, on va la diffuser au Nouveau Monde. Donc oui. vraiment... La création audio sera diffusée dans l'enceinte du oui. Nouveau Monde. Et ça sera accompagné par une lecture de poètes américains par le comédien Olivier Avran. Donc ce sont des poètes qu'on cite dans la pièce. Et il y aura aussi une création originale de Jérôme Habert qui signe 3 créations pour la bande sonore. Donc ça, ce sera le 5 septembre au Nouveau Monde à 17h. Et puis après, effectivement, on va essayer d'autres radios. On va vraiment trouver un moyen de la faire écouter le plus possible.
Mais ceci dit, quand tu nous parles de ce qui va se passer au Nouveau Monde, on se rend compte que c'est un objet génial parce qu'on peut l'accompagner, on peut aller savoir d'une conférence, de photographie, d'un concert.
Exactement, je pense que c'est vraiment pluriforme, hybride, on peut vraiment l'exploiter de différentes manières, on n'en est qu'au début et puis on a demandé des licences musicales pour 10 ans pour le territoire Europe, monde, donc normalement on aurait le temps de faire ce travail de diffusion et voilà. Et c'est ce que je trouve beau aussi dans l'objet radiophonique, c'est que c'est pérenne, ouais. ça reste et puis voilà.
Super. Alors, un premier rendez-vous, c'est ce jeudi soir sur Radio Fribourg. On sera le 1er juillet à 20h. On va diffuser La Petite Solène. Et on est très fiers.
Oui. C'est une
et y a pas match. Première mondiale.
Il n'y a pas de faute hein, ce soir-là, je crois.
Je ne sais pas, mais...
Non, il n'y a pas de faute.
Donc, oui.
Allez. Il y a un replay pour le faute. Mais il y a aussi un podcast pour La Petite Solène que vous pourrez retrouver à la suite de la diffusion sur le Mediafrappe ou bien sur le site de radiofr.ch. Et puis, le 5 septembre, il y aura cette soirée au Nouveau Monde. Peut-être que ce serait l'occasion aussi d'inviter Jérôme Imbert à la radio.
Hein, avec grand plaisir, on peut faire une petite jam radio, yes. États-Unis, Baringard.
Oh yes.
Oui, oui.
Oh yes.
Mais on attend ta contribution. Oui.
C'est juste pour que les gens n'oublient pas cette date du 5 septembre. Peut-être qu'on aura une bonne excuse pour la rappeler. Je vous laisse le faux de la main. Le mot de la fin. Oui, ça arrive aussi le lundi matin. Voilà. Michel.
Merci Radio Fribourg, nous faire confiance.
C'est pas pour ça que je te donnais le mot de la fin.
Non, mais j'y tenais. Vous nous avez beaucoup aidé aussi.
Bah, c'est bien. Ouais. Merci d'avoir été là ce matin, Michel. André.
Bah pour moi, c'était une belle, belle expérience. J'espère que ça ne serait pas la dernière. J'ai vraiment beaucoup apprécié vraiment ce travail qui était vaste, qui était très varié, et puis qui m'a aussi touché. Même, comme tu as dit, en tant que suisse-allemand, c'était des fois difficile à tout comprendre, les finesses. Mais je pense, voilà, mon oreille m'a permis de quand même bien suivre et puis les intentions.
En tout cas, vous faites un beau trio. Et Sonia ?
Eh bien, la même chose. Merci à André, merci à Michel, merci à Radio Fribourg, parce qu'effectivement, il faut des soutiens de diffusion. Donc ça, c'est très important. Et puis moi, je dirais Chindon, santé, la petite Soulane.
Chindon !
Écoutez-nous, Chindon. S'il vous plaît, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez nous faire.
Merci, j'étais très heureuse de vous recevoir ce matin.
Merci à Maëlle.
Une belle journée, à bientôt.